Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il était quelquefois. Dans le chapitre précédent de Un parfum glacé, on est de retour en 2005, Lilou a terminé son histoire, presque. Elle avoue aussi à Nicolas que le père de Eva, donc sa fille, c'est Basile. Et que oui, elle s'est mariée avec Basile, qui l'eût cru. Et du coup, la chose absolument que Lilou aimerait que Nicolas fasse pour elle, quand le moment sera venu, c'est de l'emmener en Suisse pour qu'elle puisse bénéficier des services d'un établissement qui s'appelle Exit et qui permet d'avoir un suicide assisté quand on est grandement malade. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 68, Alsace 2005. Émilie referma son cahier rouge et resta ainsi les yeux fixés sur la couverture, pensive, avant de relever la tête pour sourire à Nicolas. « Voilà, Nicolas. Cette fois, tu sais toute l'histoire, toute la vérité sur ta famille. Et la mienne aussi. Je n'ai rien à ajouter. » Il hocha plusieurs fois la tête sans répondre, puis fixant lui aussi le cahier rouge comme si ce dernier avait encore des secrets à lui révéler, comme si en l'ouvrant, d'autres mots encore allaient s'échapper, changeant ainsi encore une fois le destin de sa famille, il murmura. « Je dois dire que je ne sais plus très bien où j'en suis. Je comprends. Toute ma vie, j'ai vécu avec des gens que je croyais connaître par cœur, alors que j'en ignorais tout. Vous m'avez d'abord révélé que ma mère n'était pas ma mère, puis que mon père non seulement ne l'était pas plus, mais qu'il était homosexuel, ce qui bien sûr n'est pas un drame, mais je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir côtoyé un étranger. » Un étranger familier, mais un étranger tout de même. Je ne sais pas trop comment l'expliquer autrement. Et mon véritable père, qui est enterré pas loin d'ici, peut-être que je devrais lui donner une sépulture décente et... Non ! Elle avait crié ce mot et surpris, il releva la tête vers elle. Elle agita la main devant elle et prit une inspiration comme pour se calmer avant de s'expliquer. Non, tu ne dois pas toucher à la tombe d'Armand. Il est là où il voulait reposer. Dans la nature, au milieu de la forêt, là où il se sentait chez lui. Encore plus qu'Auvergne. Il y est depuis bientôt 60 ans. Je t'en prie, Nicolas, ne trouble pas son repos. Il a aimé une femme à en mourir et on serait tenté de le plaindre, puisqu'elle est partie sans même lui laisser un mot d'adieu. Mais au moins son amour, même bref, a été partagé. Et il a choisi cet endroit pour mourir. Il faut que tu respectes ce choix. Pas convaincu, il secoua la tête. On ne peut pas vraiment dire que c'était un choix, il... Mais si, le coupa-t-elle encore une fois sur un ton pressant. Comme tu l'as dit. J'ai aussi aimé Armand. Je le connaissais même si je ne le comprenais pas toujours et je peux t'assurer que c'est ce qu'il voulait. Ne trouble pas son repos, répéta-t-elle. Promets-le-moi, Nicolas. Il allait répondre quand on frappa à la porte. Fortement agacée, Émilie Muller se tourna vivement en marmonnant. Qui cela peut-il être? J'avais demandé qu'on ne me dérange pas quand je suis avec toi. Bon sang, c'est ma faute, s'exclama Nicolas en se levant vivement. J'ai complètement oublié de vous dire que quelqu'un désire vous voir. Quelqu'un? Mais qui? Fit Émilie en se levant également, soudain inquiète. Nicolas allait répondre, mais déjà la porte s'ouvrait et Constance faisait son entrée, toute fière, suivie de la vieille dame qu'ils avaient vue la veille. Cette dernière s'approcha, un sourire hésitant sur les lèvres, et murmura simplement « Émilie ?» Après un léger hoquet de surprise, Émilie Muller, les sourcils froncés, une expression incrédule sur le visage, sembla reconnaître la vieille dame en face d'elle. « Gertrude ? Ce n'est pas possible, c'est bien toi ?» « Oui, Émilie, c'est bien moi, ta petite sœur. Ça fait longtemps, n'est-ce pas ?»« Mais comment ? Comment ? Comment est-ce que je t'ai retrouvée ? Oh, mais j'ai toujours su où tu étais. Les journaux parlaient parfois de toi, la femme d'affaires qui était partie de rien. Souvent, j'ai voulu te rendre visite, mais mon mari, Martine, ne voulait rien savoir de toi. Alors, pour ne pas le contrarier, j'ai laissé tomber. Puis, il est mort l'année dernière. Alors, j'ai décidé de reprendre contact. » Les deux femmes, debout face à face, se ressemblaient énormément. Émilie portait ses cheveux courts et sa sœur Gertrude avait noué les siens en un chignon bas sur la nuque. La plus jeune était un peu plus petite aussi, ou alors elle se tenait moins droite qu'Émilie. Mais sinon, elles étaient identiques. Constance s'approcha furtivement de Nicolas. « J'y crois pas. Tu ne lui as rien dit ?» chuchota-t-elle. « J'ai oublié. Enfin, je veux dire, j'ai pas eu le temps. Elle me racontait la fin de l'histoire et je n'ai pas vu le temps passer. » « Ça a l'air de bien se passer, enfin si on veut », ajouta-t-elle en voyant la mine contrariée d'Émilie et celle un peu confuse de sa sœur. « Où est Luce ?» Constance n'eut pas le temps de répondre. À nouveau, on frappait à la porte et celle-ci s'ouvrit sur Luce et l'homme qui accompagnait Gertrude. De plus en plus perplexe, Émilie se tourna vers le nouvel arrivé en plissant les yeux. Aussitôt, celui-ci s'approcha d'Émilie et lui saisissant la main s'exclamait « Bonjour, Émilie !» Lentement, un masque d'horreur se peignit sur le visage de la vieille dame qui, à la stupeur générale, recula, arrachant du même coup sa main à l'emprise de l'inconnu d'un coup sec. Elle sembla chercher sa respiration, hoquetant pitoyablement, puis balbutia les yeux emplis de terreur. « Non, non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être là. Du bist tot, ich habe dich getötet !» L'homme, visiblement interloqué, fit encore un pas vers elle, les deux mains tendues comme dans une tentative d'apaisement. Mais Émilie, au comble de l'épouvante, recula encore de quelques pas, poussa un hurlement de terreur pure, le regard fou, puis s'écroula contre l'accoudoir du fauteuil qu'elle venait de quitter et resta inerte sur le plancher. Médusée, tous les autres se regardèrent, puis Luce, reprenant ses esprits, la première se précipita aux côtés d'Émilie en ordonnant à Constance d'aller chercher des secours. Cette dernière obtempéra et on emmena la vieille dame, Manu Militari, dans l'aile nord, l'aile médicalisée. « C'est ma faute », se reprocha Gertrude Hausmann, quand ils se retrouvèrent tous assis à la cafétéria en attendant des nouvelles de la doctoresse Rivet qui était au chevet d'Émilie. « C'est la mienne plutôt », contra Nicolas, encore sous le choc de ce qui venait de se produire. « Je devais avertir Émilie de votre venue et je ne l'ai pas fait. » « Ce n'est la faute de personne », objecta Luce. « De toute façon, ce qui est fait. Ce que je ne comprends pas, moi, c'est la réaction d'Émilie. On aurait dit qu'elle découvrait un revenant. » « En quelque sorte, c'est bien ce qui s'est passé », lâcha Gertrude dans un soupir. « Je ne sais pas exactement ce que ma sœur vous a révélé sur son passé, et sur le mien, par la même occasion. Ce que je veux dire, c'est que mon fils, Arnold, ici présent, est le portrait craché de son grand-père, et il y a une bonne raison à cela. » Elle se tut, et posant sa main sur celle de son fils, assis à côté d'elle, lui lança un regard muet d'appel au secours, que ce dernier comprit aussitôt, passant son bras autour des épaules de sa mère, qui sembla tout à coup minuscule et fragile, comme un oiseau, il prit à son tour la parole. « En effet, si je suis le portrait craché de mon grand-père, c'est parce qu'il est également mon père. Je sais que ça paraîtrait, comment dites-vous en français, très tordu, mais c'est ainsi. »« Ne vous inquiétez pas, je suis au courant », déclara Nicolas en se penchant vers Gertrude, dont le visage affichait une tristesse indicible. « Votre sœur m'a raconté quelle sorte de monstre était votre père. En se trouvant face à mon fils, elle a probablement cru revoir notre père. Il lui ressemble terriblement physiquement. Je veux dire, car pour le reste, c'est son exact opposé, fort heureusement. » « Mon Arnold est la gentillesse même, et moi qui le connais si bien, je ne me rends pas compte de cette ressemblance. Mais pour Émilie, qui ne l'a jamais vue, ça a dû être un choc affreux. Je le conçois bien, comme je suis bête de n'avoir pas songé à cela, la pauvre Émilie. Elle a sûrement cru qu'il revenait des enfers pour la tourmenter encore. »« Vous ne pouviez pas savoir. Ne vous inquiétez pas trop, la doctoresse va venir nous donner des nouvelles bientôt, » assura Luce en posant elle aussi sa main sur l'épaule de la vieille dame encore secouée. « Mais où est Constance ?» fit-elle en se tournant vers Nicolas, prostré sur sa chaise. « Ça fait au moins une heure qu'elle a disparu. »«
Je ne sais pas. »«
Oh si, elle m'a dit qu'elle avait oublié son sac dans la chambre de Lilou et qu'elle allait le chercher. »«
Lilou ? Qui est Lilou ?» demanda Gertrude.
« Votre sœur, c'est ainsi que la surnommaient ses anciens employeurs, qui sont aussi mes parents, quand elle a quitté l'Allemagne pour venir travailler en Alsace. » Soudain, Nicolas se leva et partit à grands pas en direction de l'escalier en colimaçon qui menait au deuxième étage. « Nicolas, où vas-tu ? » cria Luce dans son dos. « Je vais chercher Constance, » fit ce dernier sans se retourner. « Je crois que je sais pourquoi elle met tant de temps à récupérer son sac. » Quand il entra dans la chambre d'Émilie, Constance, assise dans le fauteuil où il se trouvait lui-même il n'y avait pas si longtemps, un cahier bleu ouvert sur ses genoux, lâcha un petit cri de surprise, puis, posant sa main sur son cœur, s'exclama. « Oh, Nicolas, c'est toi, tu m'as fait peur !» Sans répondre, il se tourna vers le secrétaire et s'exclama à mi-voix.
« C'est pas vrai. » « Tu l'as ouvert, j'en étais sûre. Écoute, rien du tout. Tu vas remettre ce cahier dans sa cachette d'où il n'aurait jamais dû sortir et venir avec moi. »
Comme elle ne répondait pas, il la regarda plus attentivement et constata qu'elle avait à nouveau baissé les yeux sur le cahier bleu, mais elle ne le touchait pas et ne lisait pas. Elle semblait pétrifiée et se mordait la lèvre supérieure tout en grattant presque convulsivement les petites peaux de ses doigts, signe chez elle d'une grande nervosité. Il s'approcha d'elle, s'accroupit et reprit sur un ton plus doux. « Constance, remets ce cahier à sa place, ok ?» Lentement, elle leva les yeux sur lui et d'une voix à peine audible répondit. « Nicolas, il faut que tu lises ça. »«
Non, je t'ai déjà dit, ce sont les secrets de Lilou et... »«
Nicolas, bon sang, il faut que tu lises ça » répéta-t-elle en appuyant sur le mot « faux ». Il soupira. «
Écoute, je me doute bien que Lilou n'est pas une sainte et que sans doute elle ne s'est pas enrichie à ce point sans faire quelques malversations et quelques magouilles pas très légales. Mais encore une fois, cela ne... Il ne s'agit pas de ça. Il se leva soudain exaspéré et portant les deux mains à ses tempes, répéta en martelant ces mots. « Quoi que ce soit, c'est quelque chose d'intime et je me refuse à jouer les voyeurs. » Se levant également, Constance s'approcha de lui et sans un mot, désigna une phrase du cahier bleu qu'elle tint ouvert devant lui. Il commença par secouer la tête, fermement décidé à ne pas lire. Puis, ouvrant des yeux incrédules, se saisit lentement du cahier. La jeune fille ramassa son sac de toile qu'elle avait sciemment oublié sur le lit, remit l'aiguille à tricoter qu'elle avait apportée avec elle au cas où elle parviendrait à se retrouver seule un moment dans la chambre. Elle n'y croyait pas trop, mais avait décidé de mettre toutes les chances de son côté, et quand on avait dû emmener la vieille dame, suite à son malaise, elle avait profité de l'aubaine. Sans aucun mal, elle avait réussi à ouvrir la cachette du secrétaire et avait extirpé le fameux cahier bleu décrit par André Salvin. « Constance !» appela Luce en la voyant apparaître en haut de l'escalier en colimaçon. « Qu'est-ce que tu faisais ?» Pour toute réponse, la jeune fille leva son sac. « Oublié !» fit-elle laconiquement. « Et Nicolas ?» Constance mit à profit les quelques mètres qui la séparaient encore du groupe pour élaborer un mensonge cohérent. « Eh bien, quand on est sorti, on a croisé la doctoresse, la grande blonde, et elle a dit qu'elle voulait voir Nicolas, en privé, pour le tenir au courant. »«
Au courant ?
Au courant de quoi ? De l'état de santé de la vie... de Madame Muller !» se reprit-elle de justesse en souriant à la sœur d'Émilie, qui semblait encore affectée par la scène à laquelle elle venait d'assister.
« D'accord, » fit Luce en scrutant sa fille.
Ils se mirent d'accord pour ne pas l'attendre. Nicolas en aurait peut-être pour un moment. Il avait la fâcheuse tendance à poser beaucoup de questions. Silencieusement, ils se mirent en route vers l'hôtel, la vieille dame toujours soutenue par son fils, qui lui prodiguait des paroles apaisantes en allemand.
« Tu vas me dire sérieusement ce qui se passe ?» demanda Luce à sa fille à mi-voix.
« Je t'expliquerai, mais pas là. »«
D'accord, mais Nicolas va bien ?»«
Oui, t'inquiète pas, il a dit qu'il reviendrait à pied dans un moment. » En arrivant à l'hôtel, Arnold Haussmann accompagna sa mère à sa chambre afin qu'elle se repose et Constance mit sa mère au courant de ce qu'elle avait appris en lisant le cahier bleu. L'après-midi touchait à sa fin, quand on ramena Émilie à sa chambre en fauteuil roulant. Enveloppée dans une grande robe de chambre beige, elle arborait de grandes cernes verdâtres sous les yeux et son teint gris lui donnait l'aspect d'une momie. Quand elle aperçut Nicolas, cependant, un faible sourire naquit sur ses lèvres.
« Ah, oh, Nicolas, tu es resté, comme c'est gentil !»
Il la regarda sans répondre, alors que les infirmières, avec des gestes efficaces, lui retiraient sa robe de chambre et l'installaient dans son lit. L'une d'elles, une jeune femme d'environ 25 ans à la chevelure bleue électrique, lui conseilla de revenir le lendemain quand la vieille dame se sentirait mieux. Il hocha la tête et s'apprêta à sortir quand une voix coassa.
« Non, reste un peu avec moi, Nicolas. »
Du fond de son lit, Lilou tendait une main osseuse vers lui. L'infirmière aux cheveux bleus haussa légèrement les épaules et sur un sourire s'apprêta à sortir de la chambre accompagnée des trois autres, non sans avoir murmuré «
D'accord, vous pouvez rester, mais ne la fatiguez pas trop. Elle va bien, mais son cœur est faible. Plus d'émotions pour aujourd'hui, d'accord ?
Tout va bien, Lydia, laissez-nous. Et s'il vous plaît, allez cracher cette espèce de gomme que vous mâchez à longueur de journée. »
Quand ils se retrouvèrent seuls, Émilie sourit à nouveau à Nicolas et reprit d'une voix faible.
« Comme je suis contente que tu sois restée. Je savais bien que je pouvais compter sur toi. Ta véritable mère était une dépravée sans cœur qui a lâchement abandonné son propre enfant pour courir Dieu sait où. Et l'homme qu'elle aimait. Mais toi, tu tiens de ton père. Armand était un homme bon, loyal et bon. Il a passé sa vie à venir en aide aux autres, humains ou animaux, et il est mort tout seul, par la faute de Valentine. Il respectait toujours ses promesses, comme toi. C'est pourquoi je sais que je peux compter sur toi, pour respecter celle que tu m'as faite. »
Son regard, empreint de reconnaissance, se tourna vers Nicolas, puis se fit incrédule quand elle avisa ce qu'il tenait dans ses mains. Puis, cette incrédulité fit rapidement place à une horreur absolue.
Comment as-tu trouvé ce cahier ?
Elle se tourna alors vers le secrétaire qui avait repris son aspect initial. Sans dire un mot, lentement, très lentement, elle se tourna à nouveau vers lui et Nicolas, pétrifié, eut du mal à croire ce qu'il voyait. Un abîme, au-delà de la noirceur, habitait à présent le regard de la vieille femme. Un gouffre où une puissance antédiluvienne, déjà existante bien avant la naissance de la Terre, tourbillonnait, nimbée de gémissements infâmes et innommables qui se répercutaient dans cet infini inconnu. Pris de vertige, Nicolas se rejeta en arrière, le souffle court. Puis, après plusieurs secondes, les mains tremblantes, Il s'empara de ce qu'il avait dissimulé derrière le fauteuil dans lequel il s'était assis tant de fois ces deux dernières semaines et s'avança vers la silhouette menue. Quand elle comprit ce qui allait arriver, Émilie tenta de hurler. Mais seul un son rauque et abject, teinté de terreur pure, franchit ses lèvres, juste avant que Nicolas n'écrase sur son visage l'oreiller dont il s'était muni. Pendant un moment qui lui parut interminable, il maintint l'oreiller sur le visage de la vieille qui, désespérément, s'agitait, tentant de le griffer tout en émettant des sons étouffés, puis enfin, elle cessa de se débattre et resta inerte. Sans la regarder, Nicolas continua pendant un long moment à écraser l'oreiller sur le visage de la vieille femme, ne pouvant se résoudre à la regarder une dernière fois. Enfin, il se redressa et resta quelques instants les yeux fermés et murmura « Non, je n'ai rien promis. » Puis il remit le coussin au fond de l'armoire où il était rangé, alla ramasser le cahier bleu et sortit de la pièce.